Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation. Le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous en sommes à la question 105 de la Seconda Secundae, donc nous terminons lentement ce grand traité sur la vertu de religion. C'est-à-dire la vertu de justice qui s'adresse à Dieu. Et nous allons toucher rapidement à une petite question, courte par le nombre d'articles, il n'y a que deux articles, mais importante par son sujet de la désobéissance. N'oublions pas que le péché originel est bien sûr un péché d'orgueil, mais c'est aussi un péché de désobéissance. L'orgueil amène toujours à la désobéissance. Et la désobéissance amène toujours à l'orgueil. Il y a un lien entre les deux. Et on peut dire que tous les orgueilleux sont désobéissants et tous les désobéissants sont orgueilleux. Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, la vertu principale qui nous met en contact avec notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la vertu d'humilité. Mais la vertu d'humilité est connectée à la vertu d'obéissance. Tous les humbles sont obéissants, tous les obéissants sont humbles, tous les désobéissants sont orgueilleux, tous les orgueilleux sont désobéissants. Alors voyons, résumons un peu ce que dit le Saint Thomas d'Aquin sur la question. Donc question 105, la désobéissance est-elle un péché mortel? Donc Saint Paul, 1 Timothée chapitre 3, range au nombre des péchés mortels la désobéissance aux parents. Bon. Le péché mortel, dit saint Thomas, est celui qui est contraire à la charité. Et par la charité, on aime Dieu et le prochain. Or, l'amour de Dieu prescrit d'observer les commandements, parmi lesquels se trouve l'obéissance au supérieur. Donc la désobéissance est contraire à la charité, elle est donc un péché mortel. Donc, saint Thomas explique bien que la désobéissance nous coupe de notre Seigneur Jésus-Christ et nous coupe de la charité. Tout péché qui nous coupe de la charité, de l'union à Dieu, est ipso facto un péché mortel. Pourquoi? Parce que celui qui résiste au pouvoir résiste à l'ordre de Dieu. Bon, il est évident que le bon sens va intervenir. La vertu de sagesse, le don de sagesse pour nous faire comprendre dans quel cas il faut obéir. Il est évident que si le gouvernement de l'État nous demande de faire des choses qui vont contre la foi catholique, contre la morale naturelle et contre la morale catholique, il est évident qu'on n'a pas le droit d'obéir. Donc l'amour du prochain et l'amour de Dieu, dit saint Thomas, sont tous les deux détruits par la désobéissance. Pourquoi? Parce qu'on refuse au supérieur ce qui lui est dû. Alors, la deuxième partie de cette phrase est très importante. C'est pas toute désobéissance qui est péché mortel, c'est toute désobéissance dans un domaine qui est dû au supérieur. Le supérieur a le droit de me demander des choses, mais il est limité dans ce qu'il peut me demander. L'obéissance comme un cadavre au fil de l'eau n'existe pas dans l'Église catholique. Sauf évidemment par rapport à Dieu. Dieu étant parfait, ne peut pas nous demander quelque chose qui aille contre la foi catholique. C'est absolument évident. Donc saint Ambroise précise que le péché est une désobéissance à la loi de Dieu. Le péché véniel, à proprement parler, à parler rigoureusement, est une désobéissance, mais qui ne va pas contre le précepte. Il est en dehors du précepte. Donc, lorsqu'il y a matière grave, lorsqu'il y a pleine connaissance, lorsqu'il y a plein consentement en matière de désobéissance, la désobéissance est un péché mortel. Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, je me permets de réinsister là-dessus, à cause de l'importance de la vertu d'obéissance, surtout pour les enfants. Je vous l'ai déjà dit des centaines de fois, je m'excuse de me répéter, mais j'ai l'impression que c'est toujours pas rentré, c'est beaucoup d'âmes, malheureusement, beaucoup de parents qui m'écoutent. Un enfant qui n'a pas appris à obéir sera un adulte incapable de commander. Mais si nos des adultes, de surtout en France, c'est très net, beaucoup de nos adultes sont les adultes qu'on voit en France, surtout dans le monde du travail, par exemple, beaucoup, pas tous, mais beaucoup des adultes, surtout en matière politique, sont devenus des efféminés, des gens sans aucune force, si vous voulez, aucune épine dorsale. Eh bien, on sent très bien que ces gens sont incapables de commander parce qu'en tant qu'enfants, ils n'ont jamais appris à obéir. Malheur à l'enfant qui n'a pas appris à obéir. Si maman dit à son petit, très bien, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça m'est complètement égal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette maman n'aime plus son enfant. Si au contraire, une maman oblige son enfant à apprendre, à faire l'apprentissage de la vertu d'obéissance, eh bien, dans ce cas-là, la maman aime l'enfant. Quand une maman dit à son enfant qu'il est totalement libre d'organiser sa vie comme il le veut, eh bien, il est évident que dans ce cas-là, il n'y a plus d'amour de la maman pour son petit. Alors, cette vertu d'obéissance, c'est une vertu qui est considérée aujourd'hui comme quelque chose de négatif dans le monde moderne. On est méprisé parce qu'on obéit. On nous prend pour des gamins. Non, l'obéissance est une vertu positive. C'est une vertu de force. La personne qui obéit a la force parce que justement elle remplit son devoir d'État et remplissant son devoir d'État, elle va avoir évidemment des grâces spéciales du bon Dieu. Donc celui qui obéit sera commandé. Comment voulez-vous qu'un enfant qui n'a jamais appris à obéir puisse commander? Il ne sait pas commander. Et on le voit très bien dans le monde politique actuel, pourquoi tous ces politiciens qui nous dirigent sont incapables de direction. On sent qu'ils ne savent pas commander. Donc une identité de s'en mettre plein les poches, mais le bien commun du pays, ça leur passe totalement au-dessus de la tête. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais appris à obéir. Article 2 de la question 105. La désobéissance est-elle le plus grand des péchés? Alors Saint Thomas remonte d'abord au principe, disant « Le mépris du supérieur est un plus grand péché que le mépris de ses ordres. » Donc, plus l'ordre est important, plus la désobéissance est grave. Les supérieurs, en effet, n'exigent pas d'une volonté égale tout ce qu'ils prescrivent. Ils veulent avant tout la fin qu'ils se proposent. Plus leurs ordres y sont intimement liés, plus la désobéissance est grave. Bon. La fin de tous les ordres que le bon Dieu nous donne, c'est de sauver notre âme. C'est ce qui est le plus important. Donc, toute désobéissance qui s'oppose à cette fin, c'est-à-dire au salut de nos âmes, et toute désobéissance qui nous amène dans le péché mortel, est en soi une faute grave, parce que ça nous coupe de la fin pour laquelle nous sommes créés. Cependant, c'est la conclusion de saint Thomas de l'article 2, la désobéissance n'est pas absolument parlant le plus grand des péchés. Le premier péché, strictement parlant, d'où sont venus tous les autres, ne fut pas la désobéissance considérée comme péché spécial, ce fut l'orgueil qui poussa Adam à désobéir. L'orgueil est premier, la désobéissance est second. Mais je l'ai déjà expliqué au début de ce cours, il y a toujours un lien entre les deux. L'orgueil permet la désobéissance, l'orgueil amène à la désobéissance, et la désobéissance amène toujours à l'orgueil. Donc vous voulez pratiquer la vertu d'humilité, vous voulez avoir cette pauvreté d'esprit dont notre Seigneur Jésus-Christ parle. Alors, relisez encore une fois le magnifique évangile de la fête de la Toussaint, le 1er novembre. C'est les béatitudes. Bienheureux les pauvres en esprit. Bienheureux les pauvres en esprit, c'est bienheureux ceux qui ont l'esprit d'obéissance. Alors, je conseille beaucoup aux parents qui m'écoutent sur Internet et qui ont des enfants à la maison de faire un petit peu un examen de conscience. Vous voyez, je l'ai souvent expliqué, c'est compris de travers, malheureusement, beaucoup trop souvent, et j'ai énormément de difficultés à expliquer ça à certains parents. Le quatrième commandement n'est pas seulement un commandement pour les enfants. Le quatrième commandement, c'est honorer votre père et votre mère. Bon. Ça veut dire deux choses, je m'excuse de me répéter, mais c'est important. C'est pas simplement un commandement qui demande aux enfants de voir, d'obéir à leurs parents parce que l'autorité de leurs parents vient de Dieu, mais c'est un commandement qui demande aux parents chrétiens, et aux parents en général, mais surtout aux parents chrétiens, d'agir de telle façon que leurs enfants puissent voir l'autorité de Dieu derrière leurs parents. Donc il y a un exemple à donner. Comment voulez-vous qu'un enfant garde respect et obéissance pour ses parents s'il constate que ses parents se comportent de façon trop frivole? Comment voulez-vous qu'un enfant puisse respecter ses parents et obéir à ses parents s'il entend constamment des disputes le soir à la maison entre les parents? Comment voulez-vous qu'un enfant puisse garder le principe d'obéissance si sa mère n'arrête pas de pousser contre papa ou si papa n'arrête pas de pousser contre maman? Donc il y a peut-être un laisser-aller dans ce domaine-là qui est certainement à reprendre rapidement en main. Question 106, de la reconnaissance. Si l'obéissance est un défaut bien triste, le manque de reconnaissance est aussi quelque chose de catastrophique. Manque de reconnaissance, c'est, vous voyez, on vit dans un monde de fous. Un monde de fous où la loi naturelle est maintenant en train de complètement sauter. Vous voyez, tout ça, ça vient du manque d'obéissance. Donc on ne respecte plus l'autorité, ne respectant plus l'autorité, on perd la vertu de charité, même la charité la plus élémentaire. Je peux vous donner un exemple, quelques exemples tout simples, ça m'est arrivé ces jours derniers. Et ça m'a beaucoup frappé. En ce moment, je suis en train de déménager. Bon, je suis en train de repasser de la vieille maison qu'on m'avait prêtée pour repasser à un appartement qui est au-dessus de la mairie, à La Salle, à Padiest, à 35 km au nord. Est de d'Albi, dans le Tarn. La mairie a remis à neuf l'appartement. Je suis bien content parce que maintenant je vais avoir du chauffage. Avec l'hiver qui arrive, c'est pas du surplus. Donc, je suis en train de déménager. Donc, j'ai une petite remorque et ma voiture. Je mets toutes mes affaires dedans et je porte à 50 mètres de l'ancienne maison où j'habite à un nouvel appartement. Bon. Et, c'était hier ou avant-hier. J'amène avec moi, donc je conduis ma voiture, je la mets devant l'entrée de l'appartement, avec la remorque qui est pleine de différents objets que je dois monter au premier étage, mon appartement est au premier étage. Et là, il y avait un groupe d'une vingtaine d'hommes, tous des hommes d'âge au moins de 40 ans, 35, 40 ans, qui attendaient encore les derniers arrivants pour partir à la chasse au sanglier. Très bien. Bon. J'arrive, soutane, avec mon chargement. Je dis bonjour, bonjour monsieur, on parle de chasse pendant 2 secondes, et je commence à prendre mes affaires pour les porter au premier étage de la maison. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, il n'y en a pas un qui a bougé pour venir m'aider. Pas un. Normalement, j'avais un petit congélateur à porter qui n'est pas très lourd, mais qui est très encombrant, difficile à porter tout seul. Personne ne m'aidait. J'ai dû aller vers un des plus jeunes, dire, excusez-moi, vous avez des muscles, vous pouvez venir m'aider 2 secondes, s'il vous plaît, pour que je monte ça. Alors, il est venu un peu contraint et forcé. Mais vous voyez, ce manque d'esprit de charité est aussi une conséquence du manque d'obéissance, est aussi une conséquence, je vais l'expliquer maintenant, de ce manque de reconnaissance à l'égard de Dieu. Parce que le prêtre est le ministre de Dieu. Je peux vous donner un autre exemple dans ce même genre qui m'a aussi beaucoup frappé. Bon, j'avais plein de cartons vides, donc il fallait que j'aplatisse mes cartons et je vais les mettre dans une benne spéciale pour les cartons qui est à 10 mètres de l'endroit où j'habite maintenant. Bon, j'avais ouvert la benne, elle était pleine, donc j'étais en train d'aplatir mes cartons, j'avais mis les cartons dans la benne et j'étais en soutane au milieu de la benne en train de sauter à pieds joints pour aplatir un peu mes cartons et faire un peu plus de place pour les autres cartons qui devaient arriver. Il y a plein de cartons qui étaient au pied de la benne. Un monsieur me voit, s'arrête et me propose ce service pour lui. Je vais vous aider à aplatir vos cartons. Ah, donc il a commencé à me déchirer les cartons pour les mettre à dimension et les mettre dans la benne pour que je puisse tous les placer. Je continue de sauter sur mes cartons. Mais une chose qui m'a frappé, cette personne n'était pas française. C'était un Anglais qui vit dans le village depuis 30 ans. Et c'est malheureux à dire, mais je pense que s'il avait été français, il ne m'aurait pas aidé. Bon, je ne dis pas que tous sont comme ça. Mais dans la pratique, on ne voit presque que des gens comme ça. Comment voulez-vous que des gens qui ont même perdu le sens de la charité la plus élémentaire, eh bien, comment voulez-vous que ces gens-là pratiquent l'esprit de reconnaissance et l'esprit d'obéissance? Et on peut dire tout ce qu'on veut des pays de langue anglaise, combien il est faux. Mais j'aurais été dans la même situation aux États-Unis, aux îles Fidji, en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Mais si j'avais arrêté mon chargement devant un groupe de chasseurs, une vingtaine de personnes en train de se préparer à la chasse, mais il y avait les 20 personnes qui venaient immédiatement près de moi en disant « Mon père va vous aider à monter tout ça, ça va être vite fait, on est une vingtaine, hop, chacun prend son carton. » Ça aurait été réglé et terminé en 5 minutes. Mais en France, non. Pourquoi? Parce que la piété a disparu. La vertu de religion a disparu. Alors voyons un petit peu cette question 106. La reconnaissance est-elle une vertu spéciale distincte des autres, se demande saint Thomas. Donc on est question 106 de la Seconda Secundae, deuxième partie de la deuxième partie. Donc nous avons, a expliqué saint Thomas, des dettes spéciales à payer autant qu'il y a de vertus, nous avons des dettes spéciales à payer, autant il y a de vertus particulières pour les acquitter. Donc nous sommes redevables à Dieu, premier principe de tous nos biens, à nos parents, second principe de notre existence et de notre éducation, et aux hommes revêtus de dignité, principe des bienfaits généraux de la société, enfin à nos bienfaiteurs qui nous rendent des services personnels et particuliers, d'où naissent pour nous des obligations spéciales. Tout ça est une conséquence, cette vertu de reconnaissance est une conséquence du quatrième commandement. Honore ton père et ta mère, ça veut dire honore tes supérieurs à qui tu dois quelque chose. C'est pourquoi, après la religion qui rend le culte à Dieu, parce que nous sommes redevables à Dieu, pour la vie naturelle et la vie surnaturelle qu'il nous a donnée, il nous faut aussi la piété filiale pour honorer nos parents, puisqu'ils sont principes de notre existence et de notre éducation. Il nous faut le respect pour révérer les dignitaires, principe des bienfaits généraux de la société, puis la reconnaissance qui rend grâce aux bienfaiteurs. Et malheur à ceux qui ont cœur sec. Cœur sec entraîne un abandon de la vertu de reconnaissance. Vous voyez, et là encore, je pense que ce manque de reconnaissance vient d'un défaut d'éducation. Combien de fois je vois ça dans le monde moderne, même dans des endroits publics, par exemple, quand je suis en train d'attendre, par exemple, à un comptoir de supermarché pour payer ce que j'ai mis dans mon caddie, je vois les gens qui se comportent, j'écoute, je n'ai pas des yeux et des oreilles pour rien. Eh bien, je vois la désobéissance constante des enfants, la faiblesse des parents qui cèdent constamment à leurs enfants, et surtout l'absence totale de reconnaissance. La maman entend son petit, elle est en train d'attendre aussi pour payer ses emplettes, le petit demande « Maman, je veux un chewing-gum !» Il y a toujours évidemment des choses comme ça à côté des caisses, pour pousser les enfants à harceler leurs parents. La maman dit « Non, t'as pas besoin de chewing-gum !»« Je veux un chewing-gum !» Bon, allez, elle prend un chewing-gum. Elle prend un paquet de chewing-gum et le donne à son enfant. Il y a là évidemment un péché de la part de la mère qui ne remplit pas son devoir d'État. Pourquoi? Parce que son devoir d'État, c'était de dire non. Elle avait commencé par dire, on devait tenir fermement sur ce qu'elle avait dit. L'enfant, je vois, l'enfant de 5-6 ans reçoit son paquet de chewing-gum, pas un merci, rien du tout. Pourquoi? Parce que la maman ne remplit pas son devoir d'État. Pas de merci, pas de cadeau. Et si un enfant est incapable de remercier sa mère qui vient de lui offrir un paquet de chewing-gum, comment voulez-vous que ce petit de 5 ans sache prier Dieu? Il sera incapable de prier. Puisqu'on prie d'abord pourquoi? On prie d'abord pour remercier le bon Dieu de tous ses bienfaits, adorer. Article 2 de la question 106. L'innocent est-il plus tenu que le pénitent de rendre grâce à Dieu? C'est un article très intéressant. Donc vous avez un résumé de cet article sur le polycopier, donc sur le site d'un mari, un polycopier donc sur le dans le cours Explication de la somme théologique de saint Thomas à la page 107. Et là, vous avez en rouge une question, seconda secondé, question 106, article 2. Lequel de l'innocent ou du pénitent doit à Dieu de plus grandes actions de grâce? Bien, la réponse est toute simple. Pour expliquer cet article, il suffit de reprendre la théorie, la parabole des talents. Plus on a reçu de Dieu, plus il faut savoir dire merci. Rappelez-vous les deux ouvriers qui avaient une dette à l'égard de leur maître. L'un avait une toute petite, un ouvrier qui avait une grosse dette à l'égard de son maître, qui lui pardonne la grosse dette qu'il avait. Et puis un petit ouvrier qui avait une petite dette, eh bien le supérieur lui pardonne aussi. Lequel doit avoir plus de reconnaissance? Bien évidemment celui qui avait une dette plus importante. Donc il nous faut apprendre à dire merci. Et plus on nous donne des choses importantes, plus il faut savoir dire merci. C'est quand la dernière fois que vous avez remercié du bon Dieu pour la grâce du baptême? Regardez autour de vous. Des millions de personnes autour de vous ne recevront jamais cette grâce. Regardez cette grâce que vous avez, que beaucoup d'entre nous avons eue, d'avoir été éduqués dans une famille catholique. Regardez un peu autour de vous. Vous voyez, ces jeunes gens, ces jeunes filles de 25 ans, ils en sont déjà au deuxième, troisième pax ou concubinage. Ils ont déjà deux, trois enfants de deux pères différents. Ils sont tous mariés, divorcés, remariés, repaxés, dépaxés, etc., etc. Les filles en sont déjà au deuxième ou troisième avortement. Comment voulez-vous que des gens comme ça aient un peu de stabilité sur le plan spirituel? Leur âme est une pagaille monstre. Pourquoi? Ils n'ont jamais rien reçu en famille. Mais vous, mes bien chers frères, vous avez beaucoup reçu. Moi aussi, j'ai beaucoup reçu. Je sais que j'ai beaucoup reçu en ayant la grâce de la conversion, en ayant la grâce d'avoir pu me former à Icône à Mgr Lefebvre, au temps de Mgr Lefebvre, de 1974 à 1979. Ce sont des grâces extraordinaires. Il faut penser à remercier le bon Dieu pour toutes ces grâces. Et donc, rappelez-vous la parabole des talents. Celui qui a reçu 10 talents, il doit en rendre plus que celui qui n'a reçu que 4 ou 5 ou 2. Donc, l'action de grâce, la reconnaissance ici dont parle saint Thomas, c'est simplement ce petit mot magique qui est tellement important dans la vie moderne. Merci. Savoir dire merci. Voilà ce que dit saint Thomas. Plus le bienfait est grand, plus la reconnaissance doit être vive. Or, un bienfait peut être supérieur à un autre pour deux raisons. Parce qu'on donne davantage et parce qu'on donne plus gratuitement. Sous le rapport de la quantité de la grâce, l'innocent doit à Dieu plus de reconnaissance que le pénitent. Toute chose égale d'ailleurs, Dieu lui fait un don plus grand et plus continu. Sous le rapport de la gratuité, le pénitent au contraire est tenu à plus de reconnaissance. Dieu lui fait un don plus gratuit en lui accordant la grâce au lieu de la peine qu'il mérite. Dieu exerce sa justice avec tout le monde, mais avec certaines personnes, il exerce sa miséricorde. Et un gros pécheur, avec un gros pécheur qu'il pardonne, Dieu agit avec plus de miséricorde que s'il pardonne à un petit pécheur qui n'a pas grand-chose à se faire pardonner. Notre Seigneur Jésus-Christ, rappelez-vous, mes bien chers frères, est venu d'abord pour les malades, pas pour les bien portants. Notre Seigneur Jésus-Christ aime plus un gros pécheur qu'un petit pécheur. Imaginez deux pécheurs qui attendent pour la confession, pendant la retraite surtout, après une bonne préparation, une bonne confession générale. Imaginez les deux qui attendent, ils attendent, ils attendent, puis celui qui est en train de passer, il y en a pour des heures et des heures, alors ça prend du temps. Alors le deuxième dans le rang, il demande à celui qui le précède, vous avez combien de pages de péché vous? Ben, moi j'en ai sept. Ben, et l'autre peut dire, moi j'en ai 10 de pages. Donc j'ai plus de péché que vous. Ça veut dire que le bon Dieu m'aime plus que vous. Mais d'un certain côté, c'est vrai. Le bon Dieu aime plus quelqu'un qui doit pardonner 10 pages de péché que quelqu'un qui doit pardonner 7 pages de péché. D'un certain côté, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, d'un certain côté, Dieu aime plus un pécheur pénitent qu'un innocent qui n'a jamais commis la moindre peccadille. D'un certain côté, encore une fois, comprenez ce que je vous dis là, le bon Dieu, d'un certain côté, aime plus le pécheur pénitent comme Sainte Marie Madeleine qu'une personne qui a jamais péché comme sa mère. Bon, bien sûr, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour sa mère, la très Sainte Vierge Marie, est un amour qui est divin, donc qui est supérieur à tout le reste, c'est absolument évident. Hein? Mais le bon Dieu est venu d'abord pour les grands pécheurs. Saint Thomas a une très belle citation de Saint Augustin sur le sujet. Voilà ce qu'il dit. J'attribue à votre grâce et à votre miséricorde, ô mon Dieu, que vous ayez fait fondre la glace de mes péchés. J'attribue aussi à votre grâce tout ce que je n'ai pas fait de mal, car de quoi n'étais-je pas capable? Et je reconnais que tout m'a été pardonné, et le mal que j'ai fait de moi-même et celui que, guidé par vous, je n'ai pas fait. Celui à qui il est pardonné davantage aime davantage. Rappelez-vous la phrase de notre Seigneur Jésus-Christ à propos de cette Marie-Madeleine, il lui a été beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Donc notre degré d'amour et de charité à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ doit dépendre du degré, du nombre de péchés pardonnés que nous avons sur la conscience, que nous n'avons plus sur la conscience, plus exactement. L'action de grâce, donc, chez le bénéficiaire, dit saint Thomas, répond à la générosité du bienfaiteur. Si le bienfaiteur, Dieu en l'occurrence, a été bien plus généreux avec moi qu'avec le voisin, je dois donc rendre à Dieu des hommages et des actions de grâce bien plus grandes que celui qui a presque rien reçu. Un bienfait généreux donné gratuitement, aussi peut-il y avoir plus de générosité chez les donateurs. Donc d'abord par la quantité du don, j'ai déjà expliqué tout ça, je reprends rapidement. Donc la quantité de la grâce. L'innocent doit à Dieu plus de reconnaissance que le pénitent. Et d'autre part, sur le rapport de gratuité, le bon Dieu pardonne à un gros pécheur et celui-ci est tenu donc à plus de reconnaissance. Voilà ce que dit saint Thomas, j'ai un autre texte ici sous les yeux. Le pénitent est tenu de rendre grâce plus qu'un innocent parce que le don que Dieu fait est plus gratuit. Car alors qu'il méritait un châtiment, c'est la grâce qui lui est donnée. Et ainsi, bien que le don fait à l'innocent considéré dans l'absolu soit plus grand, le don fait au pénitent est plus grand en comparaison. C'est ainsi qu'un petit don fait à un pauvre est plus grand pour lui qu'un grand don fait à un riche. Et vous avez ce texte, encore une fois, sur le polycopier, page 107 au milieu de la page. Voyons l'article 3. Dans cette question sur la reconnaissance, l'homme doit-il des actions de grâce à tous ses bienfaiteurs? Eh bien, l'ordre naturel, dit saint Thomas, c'est du bon sens, exige que le bienfaiteur étant comme tel la cause de son protégé, l'ordre naturel exige que celui-ci se retourne vers lui pour le récompenser par des actions de grâce proportionnelles à leurs conditions réciproques. Le bienfaiteur a droit à l'honneur et au respect, et quand il est dans le besoin, des soins et une subvention. Donc, la reconnaissance à l'égard des bienfaiteurs spirituels est quelque chose d'extrêmement important. Pensez à remercier le bon Dieu et le prier pour ceux qui ont été les instruments peut-être de votre conversion. Combien de personnes se sont converties parce qu'une autre personne, une connaissance de plus ou moins lointaine, un beau jour, vous a parlé d'une retraite à faire, et puis vous avez suivi le conseil qui vous a été donné, vous êtes allé faire votre retraite et vous êtes converti complètement. Il faut remercier le bon Dieu. Et il faut aussi remercier la personne qui vous a envoyé faire la retraite, parce que si elle ne l'avait pas fait, vous n'auriez pas été converti. Ici sont applicables, dit saint Thomas, les principes émis ailleurs au sujet des rapports du Père et du Fils. Le bienfaiteur, comme principe de la personne obligée, a droit à l'honneur et au respect, dit saint Thomas. Donc il est important de savoir remercier non seulement Dieu, ça c'est la vertu de religion, mais encore nos parents par la vertu de piété, aussi les hommes revêtus en dignité par le respect, et enfin tous nos bienfaiteurs. J'en profite, puisque saint Thomas parle de ce sujet, pour remercier tous ceux qui m'aident régulièrement ou irrégulièrement à vivre et à payer mes factures. N'oubliez pas que le prêtre ne vit que des dons de ses bienfaiteurs. Je tiens à remercier de tout cœur tous mes bienfaiteurs, connus et inconnus. Parfois j'ai des dons qui arrivent directement sur mon site, voire même des dons qui me sont envoyés dans une enveloppe scellée et sans adresse, sans nom. Je ne sais pas qui c'est. Mais sachez que je prie bien régulièrement à chacune de mes messes pour tous mes bienfaiteurs et que j'offre le rosaire tous les jours, les trois chapelets tous les jours, pour mes bienfaiteurs. Nous devons, dit saint Thomas, également de la reconnaissance à nos serviteurs pour tout ce qu'ils font au-delà de leurs obligations. Alors, chez les pauvres, certainement, donc, c'est une remarque du père Le Breton, la petite somme théologique que je suis. Chez les pauvres, la compensation du bienfait s'accomplit surtout par les sentiments. Recevoir un bienfait et gratitude, c'est en payer le premier terme. Les pauvres s'acquittent par la rétribution de l'honneur, les riches par la rétribution du lucre. Il y a, pour les indigents, plusieurs manières de payer la dette de la reconnaissance, le conseil fidèle, les visites assidues, les paroles aimables, sans adulation. Bon. Il faut savoir remercier. Il faut faire avec équilibre, mais il faut savoir remercier. Article 4. Donc, saint Thomas se pose la question de la compensation. Est-ce qu'elle doit se faire sur le champ? Voilà ce qu'il dit. Celui qui se hâte de rendre un bienfait, c'est payer une dette, mais il ne sait pas être reconnaissant. Le bienfait, dit saint Thomas, veut être compensé sur le champ par les sentiments du cœur, mais la compensation réelle par action doit se faire dans les temps les plus avantageux pour le bienfaiteur. Oui. Donc, il y a une charité à l'égard du bienfaiteur qui est importante. Pas simplement prier pour mes bienfaiteurs, mais pour ce qui me concerne, aussi, je dirais, à l'occasion, aider ces personnes. Ce sera peut-être par un conseil, ce sera peut-être par un coup de téléphone quand la personne est malade, pour bien montrer que je n'oublie pas ces personnes et tout ce qu'elles ont fait pour moi. Sénèque disait, pour vous acquitter d'un bienfait, recevez-le d'abord de bonne grâce, avec reconnaissance. Si vous le payez trop tôt, vous êtes un débiteur qui doit à regret et partant un ingrat. Il faut savoir se faire aider. Il y a des gens qui sont capables de se faire aider, c'est terrible ça. J'ai connu des gens qui sont capables de mourir de faim littéralement, de ne plus savoir, plus pouvoir aider, nourrir leurs enfants parce qu'ils sont en une fin de mois particulièrement difficile et ils sont incapables d'accepter de se faire aider. Parce que leur petit orgueil se met en travers et qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas à être aidés. Eh bien, il faut avoir l'humilité de temps en temps de savoir se faire aider, se dire « bon ben, je ne peux pas m'en tirer tout seul, j'ai besoin d'aide ». Article 5 de la question 106. La compensation doit-elle se mesurer sur l'affection du bienfaiteur ou sur la valeur du bienfait? Voilà ce que dit saint Thomas. Quand la compensation est une dette de justice, comme dans le prêt et transaction semblable, elle doit se mesurer sur la valeur de l'objet reçu. Si on m'a prêté quelque chose, je dois rendre. Ce qui m'a été prêté en bonne condition, évidemment. Euh, L'amitié, dit saint Thomas, a-t-elle pour base utile la compensation se mesure sur l'avantage qu'on a retiré du bienfait. L'amitié repose-t-elle sur l'honnête? La compensation doit suivre l'intention affectueuse des donateurs. Là, surtout, est la vertu de la reconnaissance qui considère avant tout la gratuité dans le bienfait reçu. Un cadeau fait gratuitement sans aucune raison a beaucoup plus de valeur. Imaginez un époux qui amène un petit bouquet de fleurs pour son épouse au retour du travail le soir sans qu'il y ait une raison spéciale. Si c'est son anniversaire, l'épouse sait, mon mari va me ramener un bouquet de fleurs et il a intérêt à pas avoir oublié, sinon il va entendre. Bon. Par contre, c'est pas le jour de son anniversaire, le mari ramène un petit bouquet de fleurs pour son épouse. Eh bien, c'est une marque gratuite d'amour qui a peut-être encore plus de valeur et d'importance pour l'épouse que le gros bouquet de fleurs qu'il va apporter le jour de son anniversaire parce qu'il est un peu contraint et forcé par les circonstances. C'est pour ça que c'est Sénèque, philosophe Sénèque, qui dit « Un léger service rendu de bonne grâce, un faible présent donné d'une façon généreuse, nous oblige souvent plus qu'un bienfait considérable. » Alors, dernier article de cette question 106. Donc, la compensation doit-elle surpasser le bienfait reçu? On doit acquitter la dette du bienfait, citation d'Aristote, et l'acquitter encore en allant au-delà. Donc, celui qui a reçu le bienfait doit aussi, par devoir d'honnêteté, faire quelque chose de gratuit. Au moins, prier pour la personne. Tant qu'il donne moins ou seulement une chose égale, il ne fait rien gratuitement. Il rend ce qu'on lui a donné. La reconnaissance doit donc, autant que possible, surpasser le bienfait reçu. Donc, pensez à remercier. Pensez à remercier le bon Dieu pour toutes les grâces reçues. Quand vous préparez une bonne convention générale en retraite, après la convention générale, je dis souvent aux gens, maintenant prenez un bout de papier et mettez sur le bon de papier la liste de toutes les grâces reçues pendant votre vie. Vous verrez que vous avez besoin de plus de papier pour écrire sur le papier toutes les grâces reçues que pour écrire tous les péchés commis. Donc dans ce cas-là, dans ce sens, la reconnaissance doit donc autant que possible surpasser le bienfait reçu. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire en nature. Si par exemple vous êtes en train de mourir de faim, quelqu'un vous donne 100 euros, bon, ben vous allez remercier la personne. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous rendiez les 100 euros tout de suite à la personne, ou plutôt, non, parce que c'est un don, c'est un don. Ce qui est donné, reprendre ses volets. Mais il faut penser à prier pour la personne. Et si vous avez reçu une aide plus ou moins plus substantielle, il faut penser à substantiellement remercier la personne. Avançons avec la question 104, question relativement facile, qui recoupe un peu ce qui a déjà été dit. C'est sur l'ingratitude. L'ingratitude est en lien avec la désobéissance de la question 105. Donc, saint Thomas d'Aquin, il a 4 articles sur cette ingratitude. L'ingratitude est un péché contre la charité. C'est quelqu'un qui ne pense pas à remercier le bon Dieu pour ses bienfaits, l'ingratitude. Alors, saint Thomas se pose la question de savoir si l'ingratitude est toujours un péché. Eh bien, cite saint Paul, 2 Timothée chapitre 3, qui range l'ingratitude parmi les péchés en disant « rebelles à leurs parents, ingrats, souillés de crimes, etc. » Donc la reconnaissance est un devoir exigé par la vertu d'honnêteté. Donc l'ingratitude est toujours un péché, parce qu'une action est un péché par cela seul qu'elle est contraire à une vertu. Donc toute action qui va contre la reconnaissance est toujours un péché. Donc l'ingratitude est toujours un péché. Est-ce que c'est un péché spécial? Oui, c'est un péché spécial, qui se commet d'abord par omission, et ensuite par action. Commet d'abord par omission, et elle a pour premier degré de ne pas rendre le bienfait, pour second de dissimuler comme si on l'avait perçu, pour troisième de le méconnaître. C'est terrible ces gens qui savent jamais dire merci. Je ne sais pas qu'est-ce qui est plus grave, de savoir jamais dire merci ou savoir jamais demander pardon d'une bêtise qu'on a faite. Je connais des époux comme ça, ils sont incapables de dire pardon quand ils ont fait une bêtise à la maison, ou en dehors de la maison. Ils n'y arrivent pas. Et puis aussi, ils sont capables de dire merci. L'épouse leur a rendu service, leur a fait un petit plaisir. Le père, le mari, il rentre, il a vu que l'épouse a fait une chose qui n'était pas d'obligation pour elle, mais elle l'a fait par amour pour son mari. Et le mari, les doigts de pied en éventail devant le feu de la cheminée, en train de lire son journal et fumer sa pipe, il pense même pas à remercier son épouse pour le bienfait, la bonne œuvre qu'elle a faite pour lui. Donc, saint Thomas explique que l'ingratitude est un péché spécial. Est-ce que c'est toujours un péché mortel? Demande-t-il à l'article 3 de la question 107. Et non, ce n'est pas toujours un péché mortel. Encore une fois, ça va dépendre de la matière. Il faut qu'il y ait matière grave, pleine connaissance, plein consentement. S'il manque une de ces trois conditions, le péché n'est pas mortel. Peut-être véniel, mais il n'est pas mortel. Article 3, l'ingratitude donc. Est-elle toujours un péché mortel? Réponse de saint Thomas, l'ingratitude par omission n'est pas toujours un péché mortel. Mais cette omission, qui est un péché véniel, à raison de tantôt négligence ou de quelques mauvaises dispositions à l'égard de la vertu, cette omission peut être une préparation au péché mortel. Pour ça, voilà ce que dit saint Thomas. Cette omission peut-être même un péché mortel, soit par le mépris des bienfaits, soit par quelques circonstances qui obligent impérieusement à payer la dette de la reconnaissance. Par exemple, la dignité du bienfaiteur, la nécessité où l'on se trouve. Donc, l'ingratitude traduit un cœur sec. Le cœur sec entraîne l'orgueil. Oui, donc il y a un lien entre tous ces péchés. L'ingratitude par action, dit saint Thomas, qui non contente d'omettre le devoir de la reconnaissance, fait tout le contraire, est tantôt mortel, tantôt véniel, selon les actes dont se rend coupable. S'il y a matière grave, il peut y avoir péché mortel, s'il y a en même temps que la matière grave, la connaissance et le consentement. Article 4 de cette question 107, l'ingrat doit-il être privé de tout bienfait? Donc, saint Thomas va citer saint Luc au chapitre 6, le Très-Haut est bon pour les ingrats et pour les méchants. Mais il y a deux choses, dit saint Thomas, à considérer dans la conduite qu'il convient de tenir à l'égard des ingrats, ce qu'ils méritent et ce que le bienfaiteur doit faire. Ils méritent sans aucun doute d'être privés des bienfaits qu'on leur a accordés. Comme un petit garçon, il reçoit un beau cadeau, il ne dit même pas merci, la maman reprend le cadeau des mains de l'enfant. Comme le dit Sénèque, celui qui n'a pas rendu un bienfait n'est pas toujours un ingrat, les moyens ou l'occasion ont pu lui manquer. Il doit tendre en outre à rendre les ingrats reconnaissants. Et s'il n'a pas réussi par un premier bienfait, peut-être y réussira-t-il par un second. Mais quand la multiplication de ces largesses ne sert qu'à les rendre plus coupables, il doit les cesser. Oui, encore une fois, il faut de l'équilibre dans toutes ces choses-là. Donc attention à ce point qui est capital dans l'éducation des enfants dont je viens de vous parler. Un enfant qui est incapable de dire merci est un enfant qui ne saura pas prier. Il y a un lien entre ces petits mots magiques dont je vous parle souvent, pour les enfants surtout, bonjour, bonsoir, merci, s'il vous plaît, pardon, et la prière. Qu'est-ce que c'est que la prière à l'égard de Dieu? Eh bien, c'est tout simplement prononcer à l'égard de Dieu ces petits mots magiques, bonjour, bonsoir, merci, s'il vous plaît, pardon, etc. Alors on avance avec la question 108 qui comporte quatre articles, la vengeance. Alors vous avez quelques petites notes sur cette question 108 sur le polycopier en bas de la page 107. Alors, une phrase que j'ai oublié de citer au sujet de l'ingratitude, qui est une belle phrase de saint Thomas, voilà ce qu'il dit. La patience à supporter les offenses qui s'adressent à nous, c'est de la vertu. Mais rester insensible à celles qui s'adressent à Dieu, c'est le comble de l'impiété. Vous voyez? On dit, et c'est vrai, que le bon Dieu pardonne tous les péchés, mais qu'il n'y a qu'un seul péché qu'il aura bien du mal à pardonner, et que sans doute il ne pardonnera pas si les offenses faites à sa mère. Malheur à celui qui se moque de la Sainte Vierge. Donc se taire alors que Dieu est offensé, c'est le cas maintenant partout autour de nous, surtout en France, eh bien c'est c'est un acte qui est un acte d'ingratitude. Alors voyons donc cette vengeance, mais essayons de voir dans quel cas la vengeance est-elle licite. Donc, il faut bien expliquer la signification du terme. On ne doit, dit saint Thomas, attendre de Dieu que ce qui est bon et licite. C'est l'article 1 de la question 108. La vengeance, donc, c'est la définition que saint Thomas donne de la vengeance. La vengeance consiste à infliger une peine à un coupable. Il faut par conséquent, si on juge de sa licité, considérer la volonté de celui qui en est l'auteur. Donc, quelles sont les circonstances ? La vertu de vengeance consiste en ce que, compte tenu de la circonstance, on garde une juste mesure en exerçant la vengeance. La vengeance est licite et vertueuse dans la mesure où elle tend à réprimer le mal. Or, certains qui n'ont pas l'amour de la vertu sont retenus de péché par la crainte de perdre des biens qu'ils préfèrent à ceux qu'ils obtiennent par le péché. Autrement, la crainte ne résumerait pas le péché. Donc, il faut distinguer les cas. La vengeance consiste à infliger une peine à un coupable. Donc, alors, saint Thomas va donner, va en parler, voilà ce qu'il dit. Si veut-il principalement, pardon, le mal qu'il fait subir en sorte que son intention s'y arrête comme dans son dernier terme, la vengeance est illicite. Se réjouir du mal des autres est le propre de la haine. Sentiment contraire à la charité qui aime tous les hommes. Vous voyez, s'il fallait définir le monde moderne, je dirais c'est un monde dans lequel la haine est partout. C'est la lutte des classes. Les grands contre les petits, les gros contre les maigres contre les gros, les petits contre les grands, les parents, les parents contre les enfants contre les parents. C'est ça le marxisme, dialectique révolutionnaire, c'est ça. Opposer les gens. La lutte des classes, c'est rien d'autre que cette opposition. Et bien, dans ce monde moderne, je pense que la caractéristique, c'est la haine. On vit dans un monde de haine. Se réjouir du mal des autres est le propre de la haine. Alors, saint Thomas cite saint Paul aux Romains, chapitre 12, « Vainquez le mal par le bien ». L'auteur de la vengeance a-t-il principalement pour but l'un des biens que l'on obtient par des punitions, la répression des malfaiteurs, le repos des gens de bien, le maintien de la justice ou la gloire de Dieu? La vengeance peut être licite. C'est le cas, par exemple, notre Seigneur Jésus-Christ qui rentre dans le temple avec un fouet de corde pour tout casser, chasser les vendeurs du temple et empêcher les vendeurs de faire leur commerce illicite dans le temple. Alors attention, il y a une remarque ici importante, voilà ce que dit saint Thomas. Quoique les bons supportent avec patience autant qu'il le faut leurs injures personnelles, ils ne souffrent pas celles qui blessent les droits de Dieu ou du prochain. Il est louable, dit saint Jean Chrysostome, d'accepter patiemment les injures que l'on reçoit soi-même, mais tolérer celles qui sont faites à Dieu, c'est pas quelque chose de louable, c'est une impiété. C'est une impiété de ne rien dire alors que notre Seigneur Jésus-Christ est profondément outragé. Vous voyez, on pourrait presque assimiler ça à une non-assistance à personne en danger. Vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ est assassiné littéralement par les faits, par les dires de quelqu'un, et on dit rien, on se tait. Vous voyez, comme imaginez un mari qui laisse son épouse être attaquée par une bande de migrants et qui dit rien et qui laisse les choses se faire. Bien non, il n'a pas l'amour pour son épouse. Donc, je répète cette phrase qui est importante. Quoique les bons supportent avec patience autant qu'il le faut leurs injures personnelles, ils ne souffrent pas celles qui blessent les droits de Dieu ou du prochain. Il est louable d'accepter patiemment les injures que l'on reçoit soi-même, mais tolérer celles qui sont faites à Dieu, c'est une iniquité, une impiété. Donc, il est évident qu'il faut garder un équilibre, une juste mesure en exerçant la vengeance. La vengeance est licite et vertueuse dans la mesure où elle tend à réprimer le mal. Or, certains qui n'ont pas l'amour de la vertu sont retenus au péché par la crainte de perdre des biens qu'ils préfèrent à ceux qui obtiennent par le péché. Autrement, la crainte ne réprimerait pas le péché. Alors, il y a une... De même qu'il y a une bonne et sainte colère, mais que la plupart des colères ne sont pas bonnes ni saintes, de même, il y a une bonne vengeance, une vraie vengeance. Vous voyez, c'est le responsable politique de la société qui se venge sur le malfaiteur en le mettant en prison. D'une certaine façon, c'est une certaine forme de vengeance, parce que la vengeance consiste à infliger une peine à un coupable. Donc, dans ce cas-là, la vengeance est bonne. Donc, saint Thomas va expliquer que cette vengeance est une vertu spéciale, distincte des autres. Vous voyez, donc, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la vengeance n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Il y a une vengeance illicite et illégitime, et il y a une vengeance licite et légitime, selon les circonstances. Mais attention, donc, il y a une faiblesse dans ce domaine, dans le sens qu'on laisse les choses se faire parce qu'on ne veut pas s'en mêler, on ne veut pas avoir d'histoire, on ne veut pas se faire taper sur les doigts. Donc la vengeance est une vertu spéciale. La vertu de vengeance, c'est l'article 2 de la question 108. La vertu de vengeance a pour racine le zèle de la charité. L'homme embrasé de l'amour divin regarde comme si une injure faite à Dieu et au prochain. Et malheur à celui qui laisse son bon Dieu être conspué, être attaqué et qui ne dit rien. Donc on est surpris, une note ici du Père Le Breton, on est surpris en premier abord de voir saint Thomas placer au nombre des vertus unies à la justice la vengeance, que nous sommes accoutumés à regarder comme un vice. Mais il est cependant certain que nous avons une inclination naturelle à repousser ce qui nous nuit et que cette inclination a besoin d'être dirigée par une vertu. Ce qu'il dit ailleurs sur la colère, considérée comme passion, nous a préparé à comprendre les vérités qu'il nous enseigne sur la vertu de vengeance. Les principes qu'il établit ici doivent servir de règle au père de famille, au chef de la société, généralement à tous les supérieurs tenus par devoir de punir le mal. Punir le mal, c'est une certaine forme de vengeance, vengeance qui est nécessaire. Le père de famille qui ne punit pas les bêtises de son fils, les désobéissances de son fils, qui ne punit pas parce qu'il n'est pas l'histoire quand il rentre du travail, eh bien, est en fait un assassin. Parce qu'il va entraîner son fils dans une spirale d'égoïsme qui va entraîner l'orgueil. Donc, il y a une sainte colère, une sainte vengeance. Article 3. La vengeance doit-elle employer les peines usitées parmi les hommes? Donc, voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. Pour réprimer et contenir les vices, la vengeance doit employer contre les méchants qui n'ont pas l'amour de la vertu, la privation de certains biens plus aimés d'eux et que ceux qui se procurent par le crime. Or, quels sont ces biens que tous les hommes aiment de façon toute particulière? La vie, l'intégrité du corps, la liberté, les richesses, la patrie, la gloire. Donc, les lois peuvent décerner 8 sortes de peines, la mort, les coups, le talion, la servitude, l'emprisonnement, l'aveugle, l'exil, l'amant, pardon, l'exil et l'infamie. C'est un texte de Cicéron. Mais bien entendu, attention, c'est pas à chacun d'entre nous de se faire sa propre justice. Hein. Quand on doit affliger des peines pour des crimes qui portent un grave préjudice à la société, vous n'avez pas le droit de faire justice vous-même dans bien des cas. Sauf si dans un cas très précis où le supérieur hiérarchique, politique, par exemple, ne ferait strictement rien. Imaginez, c'est un peu le policier qui ne fait rien pour protéger votre fille qui va être violée. Eh bien, il est évident que vous avez à intervenir dans ce cas-là pour protéger votre fille. Ça, c'est la sainte vengeance. Alors, ces peines peuvent aller jusqu'à la mort, dit Saint-Augustin. Bon. Il est évident qu'on doit infliger une telle peine que pour des crimes qui portent un grave préjudice à la société. Article 6. La vengeance inflige-t-elle des peines à ceux qui ont fait le mal involontairement? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une question sur ce sujet-là par message. Par SMS il y a quelques heures, quelques jours. Donc il a ici la réponse. La vengeance inflige-t-elle des peines à ceux qui ont fait le mal involontairement? N'oubliez pas que pour qu'il y ait faute grave, ce qu'il faut, qu'il y ait consentement et connaissance. Donc, s'il n'y a pas connaissance du mal que je commets, il n'y a pas de faute. Donc, matière grave, pleine connaissance, plein consentement. Celui qui n'a pas le consentement, parce qu'il dort, par exemple, il n'y a pas de faute grave. Alors, voilà ce que répond saint Thomas. Il y a deux sortes de peines. Les peines proprement dites et les peines médicinales. Les peines proprement dites ne peuvent être décernées que pour des fautes volontaires. Et les peines médicinales destinées non seulement à expier les péchés passés, mais encore à prémunir contre les péchés futurs et à faire avancer dans le bien, peuvent être appliquées sans avoir été méritées par une faute volontaire, bien qu'elles ne puissent pas être infligées sans une cause légitime. Donc on a besoin, par exemple, de faire pénitence, même si on n'a pas de péché sur la conscience. Puisque la pénitence est nécessaire, ceux qui ne veulent pas faire pénitence ne posséderont pas le royaume des cieux, tout simplement. Donc, si quelqu'un a fait le mal involontairement, il n'est pas responsable de ses actions, strictement parlant. Il faut connaissance et consentement. Je fais quelque chose de mal, je fais quelque chose d'important, je pense que c'est quelque chose de bien. J'ignore que cette chose que je suis en train de faire, cette action que je veux commettre, a été interdite par Dieu et par l'Église sous peine de péché mortel. Si je l'avais su, je n'aurais jamais fait. Je la fais parce que je suis dans l'ignorance. Est-ce qu'il y a faute? Non, si vous êtes de bonne foi. Cependant, dès que quelqu'un vous lève cette bonne foi, vous explique attention, ce que vous avez fait, c'est peut-être très beau vu une circonstance, mais c'est quelque chose que vous n'avez pas le droit de faire. D'accord? Donc, il faut faire attention. Les biens temporels, par exemple, dit saint Thomas, c'est une note importante, ça nous arrive tous les jours. Les biens temporels nous sont parfois retirés sans aucun péché de notre part, comme on le voit par les mots que Dieu, pour nous humilier ou pour nous éprouver, nous envoie dans cette vie. Mais les biens spirituels ne nous sont jamais ôtés sans que nous ayons mérité la privation de quelque faute, par quelque faute. Ainsi donc, les peines proprement dites ne sont infligées que pour une faute volontaire. Les peines médicinales sont parfois décernées contre les personnes innocentes. Donc le bon Dieu permet, par exemple, que des innocents souffrent. Il y a des personnes qui se sont offertes comme des âmes d'expiation. Des âmes d'expiation qui ont souffert beaucoup pour les pécheurs. C'est ce que disait la petite Siacinta constamment après l'apparition de Notre-Dame de Fatima. En 1917, au Portugal, faisons pénitence pour les pécheurs, faisons pénitence pour les pécheurs, encore un chapelet pour les pécheurs. Dieu veut nous marquer, donc, par ses punitions, l'unité de la société humaine et le soin que nous devons mettre à empêcher les péchés d'autrui. Alors, vous voyez que ces fautes sont quand même quelque chose d'important. Donc, distinguons les choses entre la vraie vengeance et la fausse vengeance, et surtout, battons-nous contre le manque d'obéissance. J'ai déjà expliqué. S'il n'y a pas d'obéissance, il n'y aura pas de reconnaissance, il y aura de l'ingratitude, et évidemment, les enfants auront un mal fou pour sauver leurs âmes. Alors, il nous reste encore quelques questions. Questions 109 à 122, donc j'aurai encore besoin au moins d'un cours, voire même de deux, pour terminer le traité sur la vertu de religion. Alors, nous avons encore la question donc 109, de la vérité ou de la sincérité, et ensuite du mensonge. Ça, c'est un point important. Le mensonge étant quelque chose qui éclose sous nos pieds comme les champignons près de la pluie, il y en a partout. Alors, nous allons arrêter là. Si Dieu veut, prochain cours vendredi prochain, quand je suis pris par certaines choses. La semaine prochaine, je dois aller voir ma vieille maman. Donc, dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que j'avance mes cours, je les mets déjà sur Internet. Ils sont toujours mis à la date où ils devaient être donnés, même si je les ai fait parfois plusieurs semaines à l'avance. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.